Chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, dans cette dernière partie d'émission, je reçois Olga Zinoviev. Bonjour Olga.
Bonjour.
Olga Zinoviev est l'épouse du célèbre philosophe, écrivain Alexandre Zinoviev. Elle est venue sur ce plateau de Radio Courtoisie avec deux amis, l'un que l'on ne présente plus sur Radio Courtoisie, Dimitri Tkochko. Bonjour Dimitri, bonjour. Journaliste, militant associatif, participant actif, c'est le moins qu'on puisse dire, du site de réinformation stoprussophobie.info. Ainsi que est aussi présent sur ce plateau Dasha Pechenievna. Est-ce que je prononce correctement Dasha à
bonjour.
Peu près
Pechenieva.
Pechenieva. Bon, allez, je vais essayer au bout de 5 fois, peut-être que je finirai par y arriver. Qui est une amie d'Olga Zinoviev. J'alerte les auditeurs de Radio Courtoisie sur le fait qu'Olga nous fait le plaisir et l'honneur de venir dans les studios de Radio Courtoisie, mais par contre ne s'exprime pas en français. Nous aurons donc Dimitri Tkochko et puis peut-être un petit peu Dasha aussi qui aidera bien sûr à la compréhension et à la traduction des propos d'Olga. Olga est exceptionnellement à Paris pour la première mondiale d'une pièce de théâtre qui était une adaptation d'un des romans de votre époux, traduit en français « Vivre », sous-titré « Confession d'un robot », qui est passé en tant que pièce de théâtre, adaptation au théâtre, le théâtre El Duende, les 22 et 23 avril, donc ça a déjà eu lieu. Par contre, il n'est pas exclu qu'il y ait d'autres adaptations de cette pièce, en particulier l'été 2019 à Moscou, dans le cadre du festival Tchekhov. Voilà l'œuvre. Alors on va revenir évidemment sur cette pièce de théâtre. Qui met en lumière finalement avec un humour et dérision l'absurdité et la solitude de la condition humaine telle qu'elle est vécue et perçue par Alexandre Zinoviev. Alors Alexandre Zinoviev, on verra à un moment donné si on peut ou pas, en tout cas lui considérer qu'il n'en était pas un dissident comme peut l'être ou comme a pu être présenté un certain nombre d'écrivains comme Solzhenitsyn. Mais d'ailleurs, on se condamne à rien comprendre à la trajectoire intellectuelle à mon avis et philosophique d'Alexandre Zinoviev si on oublie que cet homme, qui était né en 1922, était d'abord un patriote. Il prend d'ailleurs part à la Seconde Guerre mondiale, dont la Russie commémore le 9 mai la victoire. Il fut fantassin, tankiste et même aviateur. Mais parce que la pensée de Zinoviev était fondamentalement anticonformiste, il sera accusé plus tard dans sa patrie d'antisoviétisme et se verra retirer entre autres l'ensemble de ses charges universitaires. 1976 est une grande date puisque c'est le moment où sont rassemblés dans les hauteurs béantes un certain nombre de ses écrits. Hauteurs béantes qui, une sorte de jeu de mots russe renvoyant aux hauteurs radieuses, bien sûr, qui étaient promis, comme on le sait, par le régime soviétique. C'était un essai qui mettait en scène des personnages types. Ton résolument ironique qui décrit la vie quotidienne en Union soviétique. La suite, évidemment, après avoir écrit quelque chose comme Les hauteurs béantes, eh bien, l'alternative est simple, c'est la prison ou c'est l'exil. Et il choisit finalement, en 1978, l'exil, et il trouve refuge en Allemagne avec son épouse Olga et sa fille Polina. Il y a un enthousiasme indéniable à l'origine dans la réception de l'œuvre du philosophe par les médias occidentaux. Et pour cause, il met évidemment en cause le régime soviétique et l'homo sovieticus, on y reviendra. Et pourtant, il y a une lente et inéluctable détérioration des relations d'Alexandre Zinoviev avec la société occidentale, on va dire de toute façon à partir de la perestroïka et de l'effondrement de l'URSS. En effet, Alexandre Zinoviev fait une analyse critique de Gorbatchev puis de Yeltsin. On lui reprochera en Occident un certain soutien, on y reviendra peut-être, à Zoukhanov et son souhait de voir revenir, comme peut-être aujourd'hui avec la Russie de Poutine, on ne sait pas quelle en serait son analyse actuellement, d'un État central fort en Russie. Et puis Zinoviev, c'est aussi une critique de la mondialisation et de la globalisation qui est encore totalement d'actualité aujourd'hui. Un rejet du monde unipolaire des États-Unis d'Amérique, en particulier avec l'intervention en ex-Yougoslavie. En 99, il retourne en Russie, révolté par la participation de la France et de l'Europe occidentale aux opérations de l'OTAN contre la Serbie. Je le cite. L'agression de l'OTAN contre la Serbie est le début de cette guerre-là. Je suis frappé abasourdi par la réaction que l'on a eue en France et en Europe occidentale face à cette guerre. Je souligne, les Français doivent bien comprendre qu'en approuvant cette agression, ils commettent un acte de suicide historique. Mais Zinoviev, c'est aussi une analyse très originale du communautarisme. Indéniablement. Lorsque les lois du comportement communautaire sont massivement mises en pratique par les hommes, elles engendrent une multitude de phénomènes que de nombreux individus sociaux perçoivent comme négatifs. L'hypocrisie, la tromperie, le vol, l'abus de pouvoir, l'oppression exercée sur les faibles, la corruption. Afin de se protéger des phénomènes en question, autrement dit, afin de se protéger d'eux-mêmes, les hommes se voient contraints d'ériger des barrières destinées à contrecarrer les conséquences de ce que Alexandre Zinoviev appelle la communalité. Des instances judiciaires condamnant la corruption, le népotisme, des règles de morale interdisant la violence à l'encontre d'autrui sont des exemples de ce que le philosophe russe nomme la civilisation, comprise dans ce cas précis comme une tendance faisant contrepoids à la violence des hommes exercée contre eux-mêmes. Alors venons-en à l'ouvrage d'Alexandre Zinoviev, « Vivre, confession d'un robot », qui, à un certain niveau de lecture, même s'il y a aussi des niveaux de lecture psychologiques ou spirituels, mais c'est déjà un pavé dans la mare de la perestroïka, puisque c'est le moment qui est le moment charnière de sa relation avec les médias occidentaux, cet ouvrage. Alexandre Zinoviev a situé son personnage à l'époque de la perestroïka, et le robot nous livre, bien entendu, ses réflexions sur la nouvelle politique mise en œuvre par le secrétaire général de l'époque, Mikhail Gorbatchev, et son équipe. Le robot connaît son pays en profondeur et il ne se fait guère d'illusions sur le résultat des réformes en cours. Alors, moi, la première question que j'aurais voulu poser à Olga Zinoviev, et on profite donc de sa venue 48 heures à Paris, c'était lui demander si finalement, après ce que fut la lune de miel entre Zinoviev et l'Occident, et les médias, et la pensée occidentale. Si dans un deuxième temps, il y a eu en effet ce désamour, donc on comprend qu'il était d'abord, a priori, géopolitique, est-ce que l'on peut parler, avec cette pièce de théâtre, j'ai envie de dire, du retour d'Alexandre Zinoviev en Occident ? Olga.
Я с удовольствием отвечу на такой хороший, позитивный вопрос. И хочу ответить его восклицательным знаком в конце.
Je vais même y répondre avec un point d'exclamation à la fin de la question.
Да, Зиновьев возвращается во Францию.
Oui, Зиновьев revient en France.
И вот эта постановка, вот это решение этого театра для нас было, конечно, большим сюрпризом.
Cette mise en scène par ce théâtre, ça a été une grande surprise pour nous.
Была на премьере.
J'étais la première hier.
Зал был полон.
Et la salle était pleine.
И аплодисменты, которые потом отразили настроение и принятие этого спектакля.
Les applaudissements, la façon dont la salle a reçu ce spectacle.
Были самым большим убедительным доказательством.
Montré d'une façon convaincante.
Зиновьев вернулся.
Que Zinoviev est revenu.
Он вернулся с его вопросами.
Il est revenu avec ses questions.
Он вернулся с его постановкой
Il est
драмы.
Avec la façon de mettre en scène le drame
знакома не только русскому роботу,
que connaissait non seulement le robot russe, mais aussi
и во Франции, и в Германии, и в Европе, во всем мире,
que l'on connaît aussi en France, en Allemagne, en Europe.
Социальной адаптации.
C'est le problème de l'adaptation sociale.
Поэтому я счастлива, что был, что вчера состоялась премьера.
Je suis heureuse qu'il y ait eu la première hier.
Меня потрясло это прочтение.
J'ai été bouleversé en fait par cette lecture du livre.
И надо сказать, я еще раз повторю с удовольствием, меня потрясла смелость постановщиков.
J'ai trouvé que les
прочитать и понять Зиновьева,
les metteurs en scène ont été très courageux.
Представить его таким образом.
D'avoir lu Zinoviev et de l'avoir présenté de telle manière
на сцене,
que les
затаив дыхание.
La salle observait le spectacle en retenant son souffle.
Скупыми средствами, должна я сказать.
Et avec des moyens très réduits, il faut bien le dire.
Достигли максимального эффекта.
Ils sont arrivés à un effet maximum.
Mais Oui, l'œuvre d'Alexandre Zinoviev, c'est... il y a une actualité Zinoviev sur laquelle on pourra revenir, mais le collectivisme, l'idée de cet homme collectif qu'on retrouve, elle n'est pas seulement celle de l'homo sovieticus. Comme vous le dites, Olga, c'est quelque chose qui est, si ce n'est intemporel, en tout cas d'une sociologie qui dépasse de loin le régime soviétique.
Sans aucun doute.
Я с вами полностью согласна. Меня это радует постольку, поскольку вы сформулировали
эту позицию. Это
значит, что вы разобрались.
Ça veut dire que vous avez compris.
Мои комплименты.
Et les conceptions de Zinoviev. Compliment.
Moi, j'avoue que quand j'étais jeune à Sciences Po, j'avais une passion pour la pensée de Zinoviev. Et c'était à une époque où l'Union soviétique avait de fait déjà disparu. Mais néanmoins, j'y voyais une actualité extraordinaire à appliquer en Occident et en France. Et je la trouve toujours aujourd'hui, c'est toujours le cas aujourd'hui.
Je
confirme avec plaisir votre sensation.
Тем дорого ваше признание.
Ça m'est d'autant plus cher cette reconnaissance que vous dites. Tout ce qui se passait en France pour nous, pour toute l'intelligentsia soviétique, pour tous les lecteurs soviétiques, ça avait une signification colossale.
Не зря, по моему
предложению.
В этом году,
à ma proposition,
на зиновьевских чтениях у нас
будет lecture de Zinoviev de cette année,
заседание,
nous avons eu
посвященное
50-летию
студенческих волнений.
Sur le cinquantenaire des révoltes étudiantes en France de mai 68.
То есть это, вы понимаете, да, насколько это знаково было для
советского интеллигента?
То, что происходило во Франции, это означало новый прорыв, это новая революция,
которая привела
к существенным изменениям геополитическому мышлению, скажем, Европы и не только.
De grands changements dans la pensée géopolitique en Europe en général.
Et ne только.
Et pas seulement.
Mais alors, quel rapprochement vous faites entre mai 68 et les bouleversements qu'ont connu l'Union soviétique?
Вы имеете в виду то, что произошло в Советском Союзе в 90-м году?
Vous voulez dire tout ce qui s'est produit en Union soviétique dans les années 90?
Oui, absolument.
Да.
Вы знаете, любые события, происходящие в мире, так или иначе, может быть, не прямо, но опосредованно связаны друг с другом.
Tous les événements qui se passent dans le monde ont toujours un lien entre eux.
В социальном космосе.
On vit dans un cosmos social énorme.
То, что происходит в Парагвае, так или иначе, отражается на том, что происходит. Удивляться не приходится.
A une conséquence sur ce qui se passe en Russie. Il faut pas s'étonner de ça.
Колоссальные и широко распространенные, широко разветвленные корни отношений русской, французской.
En plus, compte tenu des racines très profondes de l'interpénétration entre les cultures russes et françaises, ça c'est un des fondements
de
la culture européenne.
Oui, dans cet ouvrage sur le robot, Zinoviev explique au lecteur que l'homme soviétique est avant tout membre d'un collectif, soit l'ensemble d'individus appartenant à la même cellule de travail. Une unité militaire, une usine, un bureau. Moi, j'apprécie particulièrement cette idée sur la vie intracellulaire, qui est un élément principal de l'existence du citoyen, de la société socialiste, mais j'ai envie de dire pas uniquement socialiste. Et au sein du collectif cohabitent différents types d'hommes. Imaginons maintenant qu'un individu possède en puissance tous les traits, les qualités du collectif, c'est-à-dire la bêtise et l'intelligence, la sincérité et l'hypocrisie, la bonté et la méchanceté. Eh bien, cet être humain manifestera des qualités différentes, voire opposées, en fonction de situations données. Cet homme, dont on va dire qu'il est à l'échine souple, pourra par exemple trahir ses proches, mais il sera tout aussi capable de prendre la défense de gens qu'il ne connaît pas. Il pourra louer le pouvoir en place et quelques instants plus tard le critiquer violemment. En l'homo soviéticus se conjugue avec une parfaite harmonie, les qualités de victime et celles de bourreau. Son attitude est caractérisée par la souplesse psychologique et l'aptitude au changement. On parle à ce moment-là de caméléon social. Eh bien, ce caméléon social tel qu'il existe en Russie, eh bien, je suis désolé, il existe dans beaucoup de communautés françaises. J'ai plein d'exemples en tête.
Bien sûr.
Зиновьев не писал о хамелеоне, социальном хамелеоне во Франции, la, полагая, что достаточно было мыслителей до него, которые,
которые
обращали на это внимание и страдали от этого не меньше,
penseurs, чем русский интеллектуал.
Не зря Зиновьев в своей книге «Гомо советикус», он пишет о гомо советикусе, как о человеке, способном на все. Я его люблю и ненавижу, говорит
Зиновьев.
Потому что он действительно соткан из противоречий.
Он
донесет на тебя в КГБ,
но при этом, когда тебя
отправят в лагеря или куда-то, он снимет с тебя последнюю рубашку.
Если он тебя отправит в лагеря, il est capable de s'offrir, de t'offrir la dernière chemise.
Je me tourne vers vous quelques minutes, peut-être, Dimitri, puisque vous êtes un spécialiste des médias. Ce que Zinoviev avait parfaitement perçu, et qui explique d'ailleurs pourquoi finalement le citoyen, qu'il soit aujourd'hui français ou l'homo sovieticus hier, a besoin d'être ce caméléon social, c'est qu'il y a un énorme contrôle qu'il sent, qu'il pressent se mettre en place en Occident, des médias sur les masses. Il est précurseur, Zinoviev, là-dessus.
Влияние СМИ, он уже чувствует влияние СМИ на массы, в том числе во Франции, в западных странах.
Ольга, vous pouvez répondre, et puis peut-être ensuite Dimitri. Ольга.
Значит, роли и влияние средств массовой информации,
l'influence des masses médias,
знаете, мы не будем доказывать очевидное.
On va pas démontrer ce qui est évident.
Те то жонглирование, которое происходит
la,
с массовым сознанием,
la façon dont la,
те тонны лжи,
la conscience des masses est orientée,
которые выбрасываются на сознание
российского,
китайского, французского, итальянского и так далее,
потребителя,
это же невозможно описать размеры.
C'est
это тонны лжи, еще раз повторяю.
Les dimensions,
тем более сейчас,
tonnes.
Как мы знаем, мы находимся в самом центре не информационного,
On se trouve non au centre de aujourd'hui, non au centre de la guerre d'information, mais de la guerre de la désinformation.
И не тайна, что, допустим, масса немецких
журналистов до
80%, они закрыв уши, закрыв глаза,
защищают
информационное пространство чудовищной ложью. Которая должна отразить,
avec un énorme mensonge, qui doivent simplement soutenir la position officielle du gouvernement allemand, et notamment contre la Russie et en faveur des sanctions
anti-russes. Et pourtant,
les canaux d'information ont beaucoup de force, et notamment grâce à l'Internet.
Допустим, 40 лет тому назад,
il y a 40 ans,
у нас не было мобильных телефонов,
nous n'avions pas de téléphone portable, nous n'avions pas Internet.
Было проще навязать, создать какую-то гигантскую ложь,
d'imposer un mensonge contre nous.
И кидать ее в каком-то направлении.
Et de le lancer dans n'importe quelle direction d'opinion publique.
Население было абсолютно
беспомощно
в этом плане.
N'avait pas d'alternative.
Сейчас приходится вот той же самой,
aujourd'hui,
тем же средством информации, массовой информации,
les mêmes mass-médias
изворачиваться, чтобы доказать,
faire
что черное это белое.
De faire des contorsions pour démontrer que le noir est blanc.
Параллельно официальной информации существует система социальных опросов.
Parce que maintenant, en plus, existent les sondages.
Одно дело, когда я беру просто пример того же самого немецкого правительства. Одно дело, когда они говорят о том, что необходимо продолжать антироссийские санкции.
И вся Европа
должна объединиться в этом направлении. А социальные опросы показывают, что у
60% населения
Германии прямо противоположное мнение. Потому что спрашивают тех, кто непосредственно принимает участие в работе или в безработице по поводу этих санкций.
Parce que évidemment on interroge à peu près les gens qui subissent les conséquences de ces sanctions.
Merci Olga, on va revenir sur Andrei Goriev, entre autres le personnage du robot, mais est-ce que vous avez quelques mots, parce que ce qui est dit par Olga en Allemagne est totalement vrai aussi en France, Dimitri.
Ну, меня простите, что я говорила про Германию. Это страна, в которой мы прожили 20
лет. Excusez-moi d'avoir parlé de l'Allemagne, mais j'ai quand même passé 20 ans là-bas.
Ah oui, non, au contraire. Et c'est intéressant pour les auditeurs de Radio Courtoisie de se rendre compte que ce qu'ils vivent en France, malheureusement, les Allemands vivent exactement la même chose. Alors la France, Dimitri de Kochko.
Bah pour les sanctions, on peut dire que ça se rapproche effectivement. À la limite, même bon, nous, on a subi les conséquences des sanctions au niveau, par exemple, des produits agricoles. On le voit moins au niveau de la recherche énergétique, notamment pétrolière et gazière. Total avait de très très bonnes concessions dans le nord de la Russie, par exemple. Et comme par hasard, les sanctions imposées par les États-Unis portent notamment sur du matériel de recherche. Or, les côtes, j'ai peur de la tirelire, donc on dit offshore très souvent, pour ceux qui emploieraient ces mots-là. D'autre part, bien évidemment, nous subissons le problème des finances. Nous subissons le problème des sanctions dans le domaine financier. Parce que les banques tremblent de terreur. Regardez le racket qui s'était produit contre la BNP avec les 9 milliards de dollars qu'ils ont eu à payer il y a quelques années, ce qui représentait quand même beaucoup de chômeurs chez nous. Hein. Donc ça aurait été pas mal de résister un peu. Manque de chance, l'Europe ne résiste pas. L'Europe ne tient pas vraiment à sa souveraineté, visiblement. Et l'ennui, c'est que la Russie, elle y tient. Et c'est ça qui est impardonnable, c'est ça qu'on ne veut pas lui pardonner. Alors, sur 68, можно 68 года немножко объяснить?
Да, конечно, конечно.
Sur 68, l'influence de 68, parce que je sais que ça va faire hurler certains auditeurs chez vous.
Et pas seulement les auditeurs, je me demande si je vais pas hurler avec. Mais allez-y,
alors, 18. Non, mais alors, il faut pas penser. Il était important en Union soviétique, en voyant cette révolte d'étudiants de 68, et ça je me souviens très bien moi-même, on prenait quand même ces étudiants pour de sombres imbéciles qui comprennent rien à rien, puisqu'ils en étaient à réclamer le socialisme, alors que en Union soviétique, on en avait plus que marre, et évidemment, on ne supportait plus très bien cette vision des choses. Zinoviev lui-même, à l'époque, pas 68, mais un petit peu plus tard, quand moi je l'ai connu, en tout cas dans les années 70, avant son expulsion, considérait qu'effectivement, le socialisme était réalisé en URSS. Il a changé après, hein. Il était réalisé en Union soviétique et donc il comprenait pas très bien ce que voulaient ces étudiants qui étaient complètement fous d'un certain point de vue, de vouloir un socialisme en France. Mais d'un autre côté, il y avait un autre aspect. C'est que tous ces étudiants et tous ces mouvements qui avaient lieu, notamment en France, là où c'était le plus précis, étaient des gens qui réclamaient le socialisme mais qui condamnaient l'Union soviétique et le stalinisme et la forme de, entre guillemets, socialisme qu'avait le soviétisme. Et ça, en revanche, ça a exigé une certaine réflexion et ça a provoqué une certaine réflexion en URSS. D'autant plus que ça s'est fait à un moment où il y avait les négociations d'Helsinki, notamment, et où c'était Carter qui était président des États-Unis. Mmh. Et contrairement à l'image qu'on donne de Carter aujourd'hui en disant qu'il était un peu débile, etc.,
c'est sans doute... cacahuète.
Oui, c'est ça. Mais c'est sans doute le seul et le premier président et qui a été perçu comme tel en URSS. Hein. Olga, si je me trompe, vous me corrigez. Mais Carter, en fait, était le seul président américain qui, mettait à peu près en conformité ce qu'il disait et ce qu'il faisait. Ce que ne faisait aucun autre président américain, et par la suite, ça s'est avéré encore pire. À l'exception, peut-être, évidemment, des menées de M. Brzezinski, qui était son conseiller et qui voulait à toute force, évidemment, diviser la Russie, la sectionner en plusieurs morceaux, qui est toujours le problème actuel du conflit géopolitique entre la Russie et l'Occident. Voilà, retour à Olga.
Retour à Olga et retour à l'œuvre de Zinoviev, parce qu'on n'en a pas, on est loin d'en avoir fini, non, on n'en finira pas en une heure d'émission, de ces personnages. C'est un univers assez noir tout de même que dépeint Alexandre Zinoviev. Ce sont des êtres de l'ombre, souvent, les héros d'Alexandre Zinoviev. Ce sont des gens intelligents, mais qui sont souvent à part. Ils appartiennent plutôt même aux couches, on va dire, inférieures de la Russie. On peut parler aussi d'un autre ouvrage d'Alexandre Zinoviev qui est un petit peu comme Vivre, qui est Alexandre Zinoviev, son ouvrage Va au Golgotha, avec un autre héros qui est Ivan Laptiev. Alors Ivan Laptiev, lui, se prend pour Dieu. Alors bien évidemment, on pourrait parler de cela, mais il, au-delà du fait qu'il se prend pour Dieu et qu'il il a donc une singularité très forte. Cette singularité, d'après Zinoviev, c'est ce qui permet justement, dans la solitude, dans la séparation d'avec cette société communautaire, de pouvoir construire une intériorité. Et ça, je trouve que c'est une leçon psychologique et spirituelle essentielle encore dans le monde d'aujourd'hui. Face à la normose, face... qui frappe les individus, le fait d'être, pour une raison ou pour une autre, qu'elle soit physique, par exemple, dans le cas du robot, puisque le robot est, je crois, Kudjat, ou psychologique, avec le héros de Va au Golgotha, cette séparation d'avec le reste de la communauté permet justement au héros d'enrichir son intériorité.
La rupture avec la communauté lui permet d'enrichir.
Oui, absolument.
Значит, разрыв с этой, с этой, с этим обществом, с общим,
становится возможность для него развивать индивидуум.
Знаете, говорить, может быть, я не все ухватила о том, что вы говорили.
Je n'ai pas compris exactement tout ce que vous avez dit, mais...
Мои познания французского языка немножечко далеки от совершенства. Я могу понимать, но говорить трудно.
Mais est-ce que vous pourriez, Olga, tout simplement nous parler de ces personnages tels qu'ils sont dépeints par votre époux, Alexandre Zinoviev? Comment vous vous les ressentez?
Как ощущал Александр Александрович эти персонажи, когда он их воображал и описывал?
Que ce soit Андрей Гореев, que ce soit...
Что Андрей Гореев, что Иван Лаптев. Кстати, в книге «Живи» Горев возвращается к теме и к образу Ивана Лаптева. Кстати, поэтому я предложила театру попытаться поставить вторую работу. Это будет сериал, так сказать, две темы, две книги.
И ça pourrait être la thématique de deux livres.
И если им это удастся, они, правда, вчера очень так переживали, как я отнесусь к их прочтению этой книги.
De voir comment j'allais me comporter par rapport à ce livre et comment ils allaient interpréter. J'allais juger leur façon de comprendre.
Я приняла алгоритм. Я приняла другое прочтение, вернее, другое понимание, другое восприятие героев. Хотя это совпадает с тем, что сказано в книге и о Лаптеве, и о Гореве.
Dit dans le livre et sur Laptiev et sur Goriev.
Появление этих фигур в творчестве Зиновьева в этих книгах и вообще возвращение к теме одинокого,
et, en règle générale, le retour
одинокого героя,
isolé,
наполненного мыслями, страданиями,
de,
переживаниями.
De pensée, de souffrance.
Это не претензия быть Богом.
C'est pas vraiment une prétention, c'est pas vraiment une volonté
важнее.
D'être Dieu. C'est
он,
plus important,
для него
en fait.
Это трагедия, что он выталкивается на эту роль.
C'est une tragédie d'être obligé de se sortir vers ce rôle.
В частности, для Лаптева, ужас этой трагедии состоял в том,
l'horreur de cette tragédie consistait...
Он вопрошал, как оставаться святым в окружении вот этого мерзкого мира.
Comment rester un saint dans un environnement aussi méchant, aussi mauvais?
Свою чистоту,
comment conserver sa
вокруг,
propre pureté
вокруг,
alors que tout
тому,
l'environnement social
чтобы
vous
не
pousse
был чистым,
à ne plus être
чтобы
propre?
Ты, чтобы ты не жил на катурнах, как нас Зиновьева обвиняли наши современники. Мы жили на катурнах. И это самое страшное считалось обвинение интеллектуалу и образованному человеку.
De ne plus vivre à part, de ne plus vivre sur ces, sur d'autres acquis que ceux dont nous étions accusés, nous, avec Zinoviev, justement.
Cette quête de la lumière, elle passe, dans le cas à nouveau de Laptiev comme dans celle de Goriev, par l'amour, et un amour romantique. Alors je crois que pour Ivan Laptiev, c'est une déesse. Et il y a ce même amour du robot, il voue un culte à une fiancée qui est jeune, jolie et qui ne manque pas de prétendants. Alors cet amour, c'est un élément aussi qui permet à ce héros d'aller vers la lumière.
L'amour, то самое удивительное, светящееся чувство,
которое
позволяет человеку не раствориться без остатка в океане
мерзости.
Любовь для Лаптева, любовь для Горева
—
это те светлые лучи, которые поднимают их над тусклой поверхностью каждодневной жизни. И тот, и другой — понимают, что их избранницы очень далеки от совершенства. Mais
elles comprennent très bien que leurs élus, l'élu de leur cœur, sont loin d'être parfaites.
Но как говорится, любовь зла полюбишь и козла. Вот Митя, попробуй переведи на французский язык.
C'est un proverbe russe qui dit.
Но это я сознательно опускаю такое эпическое звучание этой героической любви.
L'amour est tel que tu peux même tomber amoureux d'un bouc.
С содроганием наблюдая терзание вот этих двух героев, которые понимают, которые, к сожалению, понимают все происходящее вокруг. И они понимают, что кроме своего чистого отношения к своим возлюбленным, они здорово проигрывают на фоне тех, кто может предложить финансы, успех, карьеру и так далее.
Évidemment, ils perdent énormément par rapport à ceux qui peuvent proposer une carrière, la richesse.
Это новые боги в рубищах, раздетые.
Les héros de Zinoviev sont des nouveaux héros, en quelque sorte, mais qui sont des héros dans la misère.
Их самое главное богатство — чистота.
Et leur richesse, c'est la propreté, c'est la pureté.
Насколько это чистота, насколько это знание, насколько это вера в состоянии противостоять вот этому страшному потребительскому миру.
De pouvoir résister à la société de consommation.
Par l'amour, même si en effet il est pas partagé, mais aussi. Et ça, c'est une souffrance. C'est-à-dire qu'il y a une misère sentimentale terrible chez ces héros. Qui redouble la souffrance. Ça commence avec de la souffrance.
Incontestablement.
Et elle est redoublée par un amour non partagé.
Любовь — это страдание.
L'amour, c'est une souffrance.
Это катарсис, это очищение.
C'est une catharsis.
Любовь — это то чувство, nettoyage. То чувство, которое заставляет, вернее, позволяет тебе забыть все остальное.
L'amour est un sentiment qui permet d'oublier tout le reste.
Любовь проходит красной нитью и в той, и в другой книге.
L'amour passe comme un fil rouge dans les deux livres.
Я очень много бы отдала, если бы вы смогли попасть на балет «Крик», поставленный по роману Зиновьева «Иди на Голгофу».
J'aimerais bien que vous voyez le ballet, le hurlement, le cri.
И этот балет уже 4 года идет на сцене Одесского театра оперы и балета. 4 года.
D'après, justement, va au Golgotha. Et figurez-vous, ça fait déjà 4 ans que c'est mis en scène à Odessa. Il a commencé 2 semaines après l'incendie tragique et criminel contre les opposants au qui-et-vient du Maïdan et de Bandera.
И постановщик, исполнитель за главной роли, выдающийся танцор, солист Большого театра, Андрей Меркурьев, звезда Большого театра.
Le danseur étoile de ce ballet est André Меркурьев du Большой du théâtre Большой.
Наша первая встреча с ним и определила мою просьбу, мое задание, мою мечту.
Déterminé en fait. Ma demande, mon rêve aussi, de créer un ballet sur ce thème, sur cette
thématique.
Et quand vous voyez Меркурьев qui danse sur la grande scène du théâtre d'Odessa,
vous
n'aurez plus de questions à poser, vous comprenez tout. Vous comprenez tout
Mais on ne peut le voir qu'à Odessa pour le moment.
Только в Одессе можно это видеть.
Дело все в том, что это была... Я встретила главного хореографа Одесского театра оперы и балета в Москве.
На одном представлении, на презентации
какого-то фонда. Мы оказались, мы сидели рядом.
И
он меня спросил, имею ли я какое-нибудь отношение к Зиноеву. Я сказал, да, имею.
Я его жена.
И он мне говорит... Ольга Мироновна, я мечтаю о том, чтобы что-нибудь поставить из книг Зиновьева. Я говорю, у меня есть такая мечта. И у меня есть исполнитель этой роли.
И j'ai même celui qui peut en être un acteur principal.
И вот мы приняли это решение буквально в течение получасового разговора. Нашлись спонсоры, но не из России.
On a trouvé des sponsors qui sont d'ailleurs pas russes.
И мы начали очень интенсивную работу в Одессе с театром. Андрей туда регулярно прилетал и возвращался обратно. Автор либретто – моя старшая дочь Полина, которая должна была сюда приехать вместе со мной.
То есть, знаете, это...
Полина, qui est donc la fille d'Alexandre
Zinoviev, qui était celle qui est partie avec eux
en Allemagne.
Voilà.
Mais alors, juste...
Я хотела докончить, да. Да, и я завершу, потому что это пламенеющая страница нашей истории.
После
того, как умер Зиновьев.
И тогда,
за полтора месяца до премьеры, которая была назначена на
15 мая,
все наши украинские спонсоры и русские спонсоры сообщили мне о том, что из-за форс-мажорных обстоятельств на Украине они прекращают сотрудничество с нами по постановке этого балета.
Ils arrêtent toute coopération avec nous pour la mise en scène de ce ballet.
А балет, а кордебалет и постановщики все, мы работали с этим спектаклем с декабря. То есть ноября предыдущего года. Я сказала, но ведь люди работают, им же нужно оплатить эту работу. Мадам, извините, у нас давайте другое время. Мы не могли обмануть ни артистов, не могли обмануть сами себя, не обмануть наших друзей, которые прилетели 15 мая из Франции, из Англии, из Германии, из Соединенных Штатов, из Канады, чтобы присутствовать на этой премьере. И я была вынуждена с моими друзьями, с моей старшей дочерью и с Андреем Меркурьевым на наши деньги поставить этот балет.
De mettre en scène ce ballet.
Балет состоялся, но мы же не знали, что 2 мая в апреле будут сожжены заживо люди в доме профсоюзов.
Les gens dans la maison du syndicat.
Европейские средства массовой информации к этому повернули спиной.
Les médias occidentaux ont complètement ignoré ce crime.
А была постановка в городе, в котором пахло сожженными живыми людьми.
Nous avons mis en scène et avons fait la première de ce spectacle dans une ville qui sentait encore les gens brûlés vifs.
Спектакль состоялся, несмотря на
lieu, все... malgré cette tragédie.
Спектакль шел.
Спектакль a continué.
При переполненном зале.
Et à chaque fois, la salle était remplie.
Хотя мы все поняли, помнили эту
bien
трагедию.
Bien qu'on ait tous compris, катастрофу и
Люди присутствовали и принимали участие в спектакле. Зал стоял и плакал.
Les gens restaient debout dans la salle et pleuraient.
В особенности с того момента, где главный герой
стоит посреди
сцены, на него танки наступают.
Au milieu de la scène, et des tanks arrivent sur lui.
Мещане, обыватели, обычные люди.
Qui arrivent comme en fait, c'est la
сзади,
les gens ordinaires, les petits bourgeois,
в нашем
qui
либретто,
arrivent sur lui.
Сзади полыхал задник. Это было в нашем либретто до.
Dans notre livret, il était prévu que derrière, on voyait des flammes.
Вы представляете, что это было? Что это было за
страшное?
Что это был за когнитивный?
C'était une allusion.
Резонанс, страшный резонанс. С тем, через что прошли люди.
Une résonance terrible auprès de ce que les gens ont vécu à Odessa.
Я рассказываю об этом, по мне бегут мурашки.
Et moi, quand même, quand j'en parle, là, je suis en train d'en parler, j'ai des fourmis sur tout le corps.
Успех невероятный. И даже вот в этой Одессе, в которой
nous avons eu un
сумасшедшие руководители, и где русофобия расцветает, как крапива на помойке,
тотальмент фу, театр qui était à Odessa, malgré la russophobie colossale qu'on était en train d'essayer d'inculquer aux habitants d'Odessa. Ce théâtre Alexandre est resté un oasis. Avec Alexandre Zinoviev.
С его балетом.
Avec son ballet.
Крик.
Le cri.
Et Olga Zinoviev, vous êtes membre donc du club Zinoviev. Vous êtes une cofondatrice de ce club Zinoviev avec Dimitri Kisilov, qui est le patron entre autres de la.
Elle est coprésidente.
Coprésidente, voilà. Mm-hmm. Coprésidente. Mm-hmm. Donc mm-hmm. avec Dimitri Kisilov,
cofondatrice aussi,
qui est un journaliste vedette. Et alors voilà, cofondatrice et coprésidente, tout comme d'ailleurs donc ce journaliste qui est le patron de Russie. Aujourd'hui, pour le centenaire de la naissance d'Alexandre Zinoviev est prévue l'ouverture d'une zinothèque, c'est-à-dire une médiathèque qui sera un centre de recherche. Et en février 2018, vous avez fondé, Olga, la Fondation Zinoviev, dont les objets sont évidemment les expositions, les éditions de livres, la diffusion de la pensée d'Alexandre Zinoviev. Donc j'imagine que vous avez énormément de projets pour la diffusion de la pensée et de l'œuvre de votre époux.
Вы знаете, я скажу, отвечу на ваш вопрос, он такой множественный.
Я
отвечу на ваш вопрос очень просто.
Je répondrai d'une façon très simple.
За несколько минут до смерти Александр мне произнес слова,
avant sa mort, Alexandre m'a dit,
которые он мог и не произносить, но он их сказал.
Ce qu'il aurait pu ne pas dire.
Оля, я знаю, что ты все сделаешь.
Je sais que tu feras tout.
Я знаю, что тебе будет трудно.
Je sais que ça va être difficile pour toi.
Что тебе будет очень трудно.
Même très difficile.
Но ты все сделаешь.
Mais tu feras tout.
Et c'est le cas. On en était.
И я делаю, и я делаю, и я делаю, потому что я не могу вести себя иначе. Потому что
вокруг. Je fais parce que je ne peux pas faire autrement.
Потому что вокруг Зиновьева, вокруг его творческого и научного наследования,
собрались
великолепные силы.
Belles forces qui
Вы знаете, я не буду называть их патриотическими. Это чистые, порядочные люди.
Порядочные люди,
для которых Зиновьев и его идеи, его позиции в жизни являются образцом для подражания.
Qui considèrent que les positions de Зиновьев, sa création, ses idées sont des modèles.
И как вы можете догадаться, большую поддержку от государства я не получаю.
Bien évidemment, je n'ai pas beaucoup de soutien du gouvernement.
Потому что идеи и позиции Зиновьева по отношению к новой стране
par rapport au nouveau pays,
сильно отличается от тех ожиданий,
quand même, se distingue très fortement
которые были связаны с его возвращением на его историческую родину,
qui était lié à son retour dans sa patrie d'origine.
Oui, il est revenu en 1999. Alors, quelle est justement la perception dans la Russie de Poutine d'aujourd'hui de la pensée d'Alexandre Zinoviev?
Вы знаете, вот интересно, что я наблюдаю.
Vous savez, ce qui est intéressant, ce que j'observe.
Путин знает Зиновьева. Путин читал
Зиновьева. Il a lu Зиновьев.
Мы с Путиным были в Германии в одно время.
On a été avec Poutine en même temps en Allemagne.
Но по разные стороны баррикады, как вы понимаете.
Pas tout à fait du même côté de la barricade en plus.
И естественно, он более чем достаточно информирован и о специфике научного и мышления.
Sur y compris la pensée scientifique.
И позиции мыслителя, которые, знаете, это не позиции мыслителя, сидящего в кабинете.
C'est pas des positions d'un penseur de cabinet ou de bibliothèque.
Он жил проблемами нашей страны.
Il a vécu
он делал страшные прогнозы,
pays,
которым надо было прислушиваться.
Qui étaient terribles et eux qui valaient mieux écouter.
И они, к сожалению, оправдались, эти прогнозы.
Et malheureusement, beaucoup se sont avérés vrais.
Поэтому вот на сегодня, уже много лет
Aujourd'hui,
спустя, я вижу, и мне время от времени говорят разные приближенные лица к Путину.
Да, он читает,
он его цитирует.
Это так. Il le lit, il le cite même.
Он его цитирует, да. И я все это прекрасно понимаю. Я все это вижу. Единственное, чего мне сильно не хватает, И это понятно, почему мне этого не хватает. Страной правят либералы.
C'est que l'ennui, ceux qui dirigent le pays, en fait, ce sont les, ce qu'on appelle en Russie les libéraux.
Те либералы, которым мешает цветущая Россия, процветающая
ceux,
Россия.
Ceux des libéraux, en fait, quand Olga parle des libéraux, en fait, c'est les pro-américains, en gros. Hein. Donc, c'est des libéraux qui en fait, dirigent le pays aujourd'hui.
En Russie, d'après
aujourd'hui, en Russie.
В России. Те либералы, которые oui. не заинтересованы в процветании
c'est
моей
libéraux
родины.
Qui ne sont pas intéressés par le développement de notre pays.
Они занимают все поры
в руководстве
нашей страны.
Malheureusement, ils obstruent toutes les pores de la direction de notre pays.
Путину приходится непросто.
Путин, il a du mal, hein?
Я его поддерживаю.
Et je le soutiens.
Я не являюсь его ближайшим другом, как вы понимаете,
amie, hein,
но я его поддерживаю как человека единственного и способного на сегодняшний день удерживать противоречивые тенденции в нашей стране.
Знаете,
как у силача в цирке, его тянет один силач и другой, а он удерживает баланс.
Le costaud des foires,
как ему это удается,
deux tracteurs
я могу
qui
только удивляться.
Qui tirent dans tous les sens.
Он потрясающий друг.
Je sais pas.
В моем представлении, я его таким вижу, он является блистательным игроком в политический покер.
Je trouve que c'est un joueur brillant au poker politique.
И он выигрывает.
Et ça lui arrive
По
de
крайней
gagner?
Мере, вот те наши успехи на международной
cas,
арене,
les succès qu'on a pu avoir au niveau international,
надо встать и аплодировать.
Là, on peut se lever
Путин
et applaudir.
Меньше в десятки раз говорит, чем Трамп, например.
Путин parle à peu près 10 fois moins que Trump.
Я уже не говорю про вашего Макрона.
Je parle pas de votre Macron.
Я не говорю про нашу Меркель.
Je parle pas de notre Merkel.
Он молчит, но делает.
Lui, il se
tait,
mais
знает,
il fait.
Какой дорогой
il sait à peu
он
près...
хочет вести нашу
Donc,
страну.
Par quel chemin
И ему
il voudrait
избиратели
mener notre
поверили.
Pays. Et les électeurs lui ont fait confiance.
Поверили как никогда. Потому
Comme
что
jamais.
Стране плохо.
Parce que le pays va pas bien.
Oui, c'est très intéressant ce que vous dites, Olga Zinoviev, parce que vu d'Occident, on a l'impression que finalement l'ensemble de l'appareil politique russe est derrière Vladimir Poutine et on ne voit pas ces libéraux avoir une quelconque influence. Et vous nous dites en fait totalement les choses différemment. Nous, on a cette impression d'un pouvoir monolithique au Kremlin où l'ensemble de la classe politique est derrière Poutine. Et vous donnez une toute autre vision des choses qui rappelle un petit peu la vision faussée qu'on pouvait avoir sur De Gaulle. De Gaulle, comme Poutine, avait énormément de contradicteurs au sein même de sa majorité.
On
peut revenir au début de notre conversation.
О проблемах со средствами массовой информации, о дезинформации и так далее.
Sur la désinformation,
вот вам,
etc. Ben
вот
voilà.
У вас такое
voilà.
впечатление. Vous Я, avez, конечно, не
voyez,
говорю о вас лично.
Avez cette impression.
Но вы понимаете, eh bien, что вот тот наплыв дезинформации,
препарирование
массового сознания,
cette préparation
оно сейчас
de
достигло
la
невероятной
des
совершенно высоты.
Est arrivé à des hauteurs qui sont
Я воспринимаю мозги
западных
потребителей.
Je vois la façon dont les consommateurs
как,
occidentaux
знаете, консервные банки, которые открыли, она пустая,
réagissent un peu
и туда можно
comme
запихать все, что угодно.
Devant une boîte de conserve vide dans laquelle on peut mettre n'importe quoi.
Je vais me tourner vers Dasha Pechenieva. Alors je sais que je vais à nouveau mal prononcer, c'est pas grave. Et justement, alors vous êtes amie d'Olga Zinoviev, mais vous vivez depuis de nombreuses années en France. Quelle est la percée quand vous voyez un petit peu ce qui se fait dans les médias français aujourd'hui sur la Russie, qui est votre pays d'origine, vous êtes russe, Dasha.
Tout à fait, oui.
Est-ce que vous rejoignez ce que disent Olga Zinoviev et Dimitri Tkochko? Vous ne reconnaissez pas la Russie, vous ne reconnaissez
Moi,
pas
traduis.
Poutine, et là, il n'est pas nécessaire. Je pense que Dasha peut parler tout à fait la possibilité de parler en français. Est-ce que vous avez cette même appréhension d'un décalage énorme, immense, entre les médias, l'image qui est véhiculée dans la société française
Tout à fait,
de la Russie.
Il y a entré dans un grand décalage. Bon, personnellement, en ce qui me concerne, mes amis, ce sont plutôt les gens qui soutiennent la Russie, donc je ne le ressens pas tout à fait autour de moi. Mais ce que je vois dans les médias, oui, c'est tout à fait ça. D'ailleurs, je regarde plutôt la télévision russe que la télévision française, tout simplement parce que je trouve que j'ai plus d'enfants formation que j'entends à la télévision russe, même en ce qui concerne le monde entier.
C'est vrai. C'était pas comme ça sous le temps soviétique,
mais c'est vrai. La Russie, voilà.
Ce qu'elle dit est vrai.
Et j'ai aussi d'autres amis qui, depuis des années, ne regardent plus la télé française. Ils s'orientent vers la télévision russe pour être mieux informés.
Vous parlez de français ?
Des amis russes, non.
Ah oui.
Ceux qui ont, voilà.
Il y a quand même la barrière de la langue.
Non, je suis désolée. Des amis russes, oui.
Enfin, russophones. Il suffit de parler le russe, hein. Vous pouvez être n'importe quelle nationalité.
Et alors, Dasha, vous qui êtes russe et qui donc avez... Alors, je ne sais pas, vous avez vécu en Russie ?
Oui, à l'âge de 23 ans.
Jusqu'à l'âge de 23 ans, vous connaissez bien votre mère patrie. Est-ce que ce communautarisme dont parle Zinoviev, qui marque en effet ce qu'on a appelé l'homo sovieticus, ou en tout cas même l'homme russe aujourd'hui, est-ce que vous en retrouvez aujourd'hui dans cette patrie d'adoption qui est la France ? Est-ce que la description que Zinoviev en faisait en Russie, elle est applicable en France aujourd'hui ? Il y a un homo fait. Alors, chez Philippe Muret, lui parlait d'homo festivus. Vous voyez, vous êtes parisienne. Est-ce qu'il y a un homo festivus aujourd'hui, français, occidental, un homo occidentaliste qui ressemble finalement à l'homo sovieticus ?
Oui, effectivement, on peut faire ce lien-là.
Ce parallèle.
Ce parallèle. Mais si vous voulez, je me sens proche de. En fait, je partage ces idées parce que moi, au départ, pareil, j'ai critiqué l'Union soviétique, tout ce qui se passait en Union soviétique, ça me déplaisait. Mais
jusqu'à la fin.
Mais avec du recul, maintenant, quand j'ai vécu en France, à l'Occident, je trouve ce qu'il dit que c'est tout à fait vrai, c'est-à-dire que. L'Union soviétique, c'était pas si mal que ça pour le pays comme la Russie, parce que c'est un modèle d'un pouvoir fort, autoritaire, qu'il faudrait que ce soit appliqué à la Russie comme forme du gouvernement.
Si et c'est plus voulez. Ou moins le cas avec Poutine aujourd'hui.
C'est pas si évident.
Pas du tout.
C'est pas si évident que ça.
Rien à voir avec ce qu'a été l'Union soviétique.
Oui, ça n'a rien à voir.
C'était un totalitarisme, mais un totalitarisme qui était moins monstrueux sans doute que tel qu'on le dépeint aujourd'hui, mais enfin qu'il a été monstrueux sous Staline quand même, il l'a été.
C'est ça,
il y a eu des phases, oui. Non, puis sous Brejnev, c'était pas rigolo. Hein. Quand Zinoviev écrivait Les hauteurs béantes, c'est évident que c'était un totalitarisme aussi. Ça n'a rien à voir avec la Russie de Poutine. Où, je vous signale, aujourd'hui, en Russie, vous pouvez regarder toutes les télévisions du monde, vous avez tous les internets du monde, alors que si vous allez dans les pays baltes voisins, par exemple, ou en Ukraine, eh ben, vous ne pouvez plus voir la télévision russe. On vous censure. Vous n'avez droit que aux télévisions américaines, anglaises, françaises, françaises aussi de temps en temps, et puis deux ou trois télévisions en russe, en général les plus débiles possibles.
Mais c'est pas ce que je voulais dire, Dimitri. Ce que je voulais dire, c'est que avec Poutine, en tout cas, je rebondissais par rapport à ce que disait Dasha.
On brouillait les radios.
Avec Poutine, il y a quand même un retour de l'État russe fort. C'est-à-dire que par rapport à l'époque Yeltsin. Il y a quand même un changement dans la direction d'un État fort.
Je suis partie en France en 2000. La Russie venait de sortir des années 90, qui c'était les pires années dans l'histoire de la Russie, une des pires. Si c'était aujourd'hui, je pense que je serais restée en Russie.
Mais alors,
et même ça me donne envie d'y retourner actuellement.
Et alors, voilà. quand la perestroïka est arrivée, Mikhail Gorbatchev, vous avez fait partie en Russie aussi, comme c'était le cas en Occident, des gens enthousiastes en disant c'est la fin d'une chape de plomb, c'est la fin de l'Union soviétique, c'est l'Union soviétique en tout cas du totalitarisme soviétique. Non, mais soyez honnête, à ce moment-là, je ne dis pas aujourd'hui, mais parce que en effet, il y a des êtres comme Zinoviev dont on va dire qu'ils sont réellement prophète, ou en tout cas qui voit les choses avant qu'elles ne se réalisent. Mais pour beaucoup de gens, je pense que quand même, c'était pas un appel d'air formidable, Gorbatchev ?
C'est vrai que tout le monde en avait marre de l'Union soviétique, ça c'est vrai. Mais ma situation familiale, c'était un peu particulière parce que mes parents connaissaient assez de près Gorbatchev. Ils savaient qu'est-ce que c'est comme personnage. Et on pouvait très bien s'entendre que rien de bien n'allait pas se passer avec cette perestroïka. Mais évidemment, pour les Russes qui connaissaient pas personnellement Gorbatchev, il aspirait à ce que ça soit voilà la fin de cette de l'Union soviétique dont tout le monde en avait marre et qu'on allait avoir quelque chose, voilà, cet avenir radieux. Mais finalement, c'était pas le cas, c'est devenu pire.
Mais c'est-à-dire qu'il y a toujours cette idée d'avenir radieux avec la Russie, hein, l'Union soviétique, le communisme, c'était l'avenir radieux, la perestroïka, c'est l'avenir radieux. On a l'impression que l'âme slave, est-ce que c'est l'âme russe, est condamnée à la souffrance. Est-ce que là, et aussi une question pour Olga, est-ce que c'est cette souffrance systématique chez tous les auteurs de Zinoviev, tous les auteurs, tous les héros, pardon. Il faut parler devant le micro, Dimitri, parce que pour les auditeurs, en fait, on est sur un flux complet. Oui, mais on peut le faire quand même micro ouvert.
Vous savez, il ne serait pas juste
de dire que nous aimons tellement la souffrance. Ça, c'est pas vrai.
Мы не созданы для страдания.
On n'est pas créé pour la souffrance.
Но Зиновьев об этом очень хорошо пишет. В том же самом «Иди на Голгофу» и «Живи».
В «Голгофе
Советикусе» тоже. Мы обладаем способностью страдать за все человечество.
Mais nous avons la capacité de souffrir pour toute l'humanité.
Забывая о своих страданиях.
En oubliant nos propres souffrances.
Знаете, экстраполяция наших страданий.
L'extrapolation de nos souffrances.
В Парагвай,
vers le Paraguay, vers le Chili, vers la Chine.
Позволяет nous permet нашу боль так сильно и так остро.
D'atténuer notre souffrance à nous.
Et de ne pas l'avoir
d'une manière aussi aiguë que n'importe quel Mexicain. Qui souffre dans sa rue. C'est ça le monde russe. C'est ça une idée du monde russe. Nous ne sommes pas indifférents à tout ce qui se produit avec l'humanité dans le monde entier.
Donc il y a un universalisme.
Et de plus, nous crachons dessus assez souvent.
Mais ça se termine
oui,
mal.
Oui, il y a un universalisme du russe. Oui.
Ça se termine mal.
Vous aimez Dostoïevski ?
Absolument.
Le peuple théophore. C'est Dostoïevski qui l'a, je dirais, mis en scène et qui l'a beaucoup proclamé. Et les Russes ont cet aspect de peuple théophore. Ils ne sont pas les seuls. Il y en a un deuxième.
Lequel ?
Le peuple juif, bien sûr.
Est-ce qu'il y a quand même un espoir à la fin ? Parce que je disais, ça se termine mal pour les héros, que ce soit pour Laptiev, ça se termine, il retourne dans sa ville après plusieurs années en hôpital psychiatrique, et puis il dit, ils ont quand même réussi à tuer Dieu. Et quant au héros Andrei Goriev, dans cette petite ville de Partiville, dans un trou perdu au fin fond de l'immense Russie, eh bien, on voit un Kudjat qui est assis dans la boue, il est ivre et son visage est boursouflé sous l'effet de l'alcool et des pleurs. Et avant d'embarquer l'ivrogne, un milicien ramasse des bouts de métal qui joncent le sol, reste de ses prothèses que l'infirme vient de briser. C'est à peu près comme ça que ça se termine.
Oui, bien sûr, c'est pas une fin heureuse, hein, ce qu'on appelle. Mais attention, il a copié qui n'y a pas anglais.
Ah, alors là, je sens que le cochon.
Donc, non, mais voilà, c'est pour ça que.
Pièce.
Donc, ce n'est pas la conception de Hollywood de la fin heureuse.
Et pourtant, полная безысходность.
C'est une voie sans issue.
Черная безбрежная пропасть.
Oui, c'est un précipice noir.
Кажется, уже нет никакого движения вперед.
On peut plus avancer.
И вот, прочитав и эту, и другую
книгу, vous avez lu et ce livre-là,
ужаснувшись эпическим страданием главного героя,
vous êtes effrayé des souffrances épiques de ces deux héros.
Вы знаете, что типично для Зиновьева?
Он дает
надежду. Он оставляет надежду тебе, как человеку, читающему и переживающему.
À l'homme qui
Он дает тебе возможность остаться человеком и искать другой выход.
Et à chercher, à rester humain et à chercher une autre voie, une autre sortie.
Вот это величайшая этическая позиция Зиновьева.
La plus grande
именно в том, что
position
он обращается к самому последнему человеку,
c'est qu'il s'adresse
давая ему возможность подняться.
Le tout dernier, au tout dernier, au plus bas, en lui donnant la possibilité de s'élever.
Alors c'est vrai à titre individuel chez Zinoviev, mais moi je me demande s'il n'y a pas aussi une dimension collective dans la possibilité d'en va au Golgotha, par exemple, sur la fin de cet ouvrage, il est écrit dans la possibilité de voir apparaître dans l'arène de l'histoire un phénomène radicalement nouveau, imprévu, distinct de la science, de l'idéologie, de la vieille religion, et non pas incarné par une seule personne, comme dans le cas du Christ, mais par la masse dans son ensemble. Est-ce qu'il y avait cet espoir aussi chez Zinoviev? Un espoir plus collectif cette fois-ci, de quelque chose de tout à fait nouveau.
Я не стала бы говорить о коллективной надежде. Надежда может быть только
espoir collectif,
надежда индивидуальна. Каждый маленький индивидуум, муравей, ведь, обратите внимание,
chaque petit individu est une petite fourmi.
Ты родился червяком, живи червяком, утверждает герой, né, да?
Tu es né vers de terre. Tu restes vers de terre,
dit un des héros. Твоя судьба, твоя проблема, твоя жизнь, твои переживания, это твое личное. Поэтому твоя надежда, может быть, будучи совокупленной с надеждами других таких же маленьких, обделенных,
pourront peut-être se réunir, rencontrer d'autres souffrances identiques de gens également isolés, de petites âmes. Oui, de ce point de vue-là, on peut parler sans doute d'un espoir collectif.
Mais pas au-delà. Parce qu'on parlait de mai 68 tout à l'heure, c'est bien...
Non, не дальше. Например, говорили о мае 68-го года.
А все равно надо пробовать. Надо пробовать.
Страну?
Надо всегда пробовать идею и не останавливаться на достигнутом.
Faut essayer toutes les idées et puis ne pas s'arrêter à ce qui a été acquis.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Olga Zinoviev, pour cette heure passée ensemble. Je rappelle les deux ouvrages dont nous avons parlé, en particulier « Vivre, confession d'un robot » d'Alexandre Zinoviev, dont nous avons maintenant une adaptation au théâtre. Eva au Golgotha, toujours d'Alexandre Zinoviev. Je remercie Dasha, bien sûr, qui nous a accompagnés pendant cette heure
à
la radio. Et puis, évidemment, Dimitri Dokochko, merci de vos interventions. Merci pour l'ensemble de cette traduction. Si vous avez encore quelques mots à ajouter, n'hésitez pas.
Olga,
je vous remercie pour cette possibilité d'être entendu.
Отрефлексировать проблемы, которые не разделяются границами.
Les problèmes qui ne sont pas séparés par des frontières.
Почувствовать боль друг друга.
De sentir notre douleur commune.
И не отказываться от свободы.
Et ne pas refuser.
От данной нам возможности.
De la possibilité que nous avons de penser.
Думать очень больно, но надо думать.
Penser, ça fait mal, mais il faut penser.
Merci beaucoup, Olga. Merci à vous.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le libre journal de la plus grande France, dirigé par Nicolas Stocker, assisté de Philippe Droite. Émission préenregistrée les 23 avril et 6 juillet 2018. Elle est diffusée pour la première fois samedi 7 juillet 2018 de 18h à 21h et réalisée par Franck et Jocelyn. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016. Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.